Vous écoutez
RMC.
Vous êtes sur RMC, bon réveil à tous, il est pile 7h.
RMC, Apolline Matin.
Thibaut Texer est avec nous, c'est l'heure du journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'eau continue de grimper ce matin dans le sud-ouest au lendemain de la tempête Nils. La vigilance rouge au cru est maintenue sur deux départements en Nouvelle-Aquitaine jusqu'à demain au moins. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Il a 15 ans et a été condamné à 17 ans de prison, jugé pour avoir tué un chauffeur VTC à Marseille. Un jeune tueur à gages va faire appel de sa condamnation. Et les yeux rivés vers le ciel ce matin, décollage imminent pour Sophie Adnaud. L'astronaute française va s'envoler pour la Station Spatiale Internationale.
450 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin dans l'Ouest après le passage de la tempête Nils.
Une tempête qui a balayé une large partie du Sud-Ouest hier, accompagnée par la pluie. Le risque de crue reste élevé. Deux départements, je vous le disais, sont toujours en alerte maximale. Le Lot-et-Garonne et la Gironde menacés par les eaux en vigilance rouge jusqu'à demain au moins. D'importants débordements sont redoutés sur l'ensemble du bassin de la Garonne et de ses affluents. C'est le cas du côté de Réole. Sur place et en direct ce matin, Pierre Bourgès, correspondant à RMC en Gironde. L'eau s'est déjà infiltrée ce matin dans certaines maisons, Pierre.
Oui, exactement. Je me trouve d'ailleurs sur les quais de la Réole ce matin. Ici, la quasi-totalité des maisons sont désormais inondées. Il y a environ, en fonction des endroits, entre 30 et 80 cm d'eau dans les habitations, selon le maire. La plupart des personnes qui logent ici ont été évacuées pour être relogées, soit chez des proches ou dans l'internat du lycée de la commune. En 24 heures, le niveau de l'eau est monté de 70 cm. Alors, pour le moment, selon Vigicru, le niveau de l'eau devrait se stabiliser dans les prochaines heures avant de remonter jusqu'à demain, ce qui inquiète notamment les habitants situés juste en face de moi, de l'autre côté de la Garonne. Eux sont protégés par une digue, mais il ne manque à certains endroits qu'une cinquantaine de centimètres pour que celle-ci ne soit dépassée par la Garonne. C'était déjà arrivé en 2021 et des centaines d'habitations avaient été envahies par le fleuve.
Ce matin, en direct donc de l'Aréole en Gironde, la tempête Nils, elle, va se décaler vers l'est ce matin avec des vents violents annoncés en Corse. Quatre départements des Alpes restent en vigilance orange aux avalanches.
Où que vous soyez sur le territoire français, par là où est passée la tempête Nils, vous n'hésitez pas à vous témoigner ce matin. Où est-ce qu'on en est 24 heures après les dégâts, les crues aussi. 3216 et le WhatsApp RMC pour vos messages. Il est 7h02 sur RMC. 17 ans de prison pour un jeune tueur à gages de 15 ans.
Condamné par le tribunal pour enfants, la réclusion criminelle pour le meurtre d'un chauffeur VTC. C'était à Marseille en 2024. Il était jugé pour meurtre en bande organisée. Constance Bostoen du service police-justice. Vous avez suivi ce procès pour RMC et l'adolescent va faire appel de sa condamnation.
Oui, c'est la seule réaction qu'il a eue à l'énoncé du jugement. L'adolescent, l'air très juvénile, vêtu d'un polo blanc, s'est penché vers ses avocates pour le leur signifier. Une volonté justifiée par la peine prononcée, selon Eva Bensoussan, son avocate.
Nous restons quand même convaincus que ce quantum est réellement trop élevé, compte tenu en fait du parcours de sa vie.
Le parquet national anticriminalité organisé avait requis 20 ans de prison. C'est le maximum pour un mineur. À l'issue de 4 heures de délibéré, l'adolescent a finalement été condamné à 17 ans. Une peine juste, selon l'avocate de la famille. De la victime.
C'est la peine exemplaire que nous avions espérée. La décision, en tout cas, du tribunal pour enfants me paraît une décision avec du sens.
Mais pour Samy, le frère du chauffeur VTC, rien ne le ramènera.
Peu importe la décision qui a été prise, pour nous, rien ne changera. Peu importe la peine, encore une fois, pour nous, c'est à vie.
Le père du prévenu, lui aussi incarcéré pour trafic de stupéfiants, était présent à l'audience en visio. Il a lâché « Courage mon fils » avant que l'audience ne soit levée.
Un mois et demi après l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana en Suisse, plus de 440 établissements français recevant du public ont été contrôlés le mois dernier et le bilan n'est pas bon. Près de la moitié d'entre eux ont été épinglés pour non-respect des règles de sécurité. Une cinquantaine de bars ont été fermés. On en reparle dans le journal de 7h30.
Un quart de siècle après Claudie Aigneret, une deuxième Française dans l'espace.
Sophie Adenau, elle va s'envoler vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale, prévue mercredi, reporter deux fois le décollage et donc prévu à 11h15 ce matin pour l'astronaute de 43 ans qui va réaliser un rêve d'enfant. C'est elle qui le dit en compagnie d'un Russe et de deux Américains. Un voyage de 8 mois, 400 km au-dessus de la Terre avec un objectif, Clara Gabillet, faire avancer la recherche scientifique.
Oui, plus de 200 expériences pour mieux comprendre ce que l'apesanteur fait au corps humain sur le long terme, comment réagissent les artères, les os, mais aussi le cerveau. Sophie Adnov a notamment observé comment l'espace agit sur la mémoire, la prise de risque et les émotions. Comme Thomas Pesquet, il y a 5 ans, cette pilote d'hélicoptère dans l'armée va jouer les cobayes dans un laboratoire unique au monde, explique Sébastien Bard, sous-directeur de l'exploration et des vols habités au CNES.
Ça peut être des prises de salive, ça peut être des prises de sang, ça peut des questionnaires, ça peut être de la réalité virtuelle où on teste leur capacité, leur temps de réponse, etc. Ces scientifiques-là, ils vont dans l'espace parce qu'on ne sait pas faire autrement pour enlever les effets de la micro-pesanteur. Sophie, donc elle va contribuer à ces missions-là. C'est la contribution de la France au grand programme ISS.
Sophie Adnov testera aussi un nouvel appareil d'échographie, fera des réparations sur l'ISS, sans oublier le ménage, une tâche partagée tous les samedis matins par les membres de l'équipage.
Bruno Retailleau se lance dans la course à l'Élysée à plus d'un an de l'élection présidentielle et à un mois des municipales. L'annonce ne surprend pas, le timing en revanche. Interroge au sein de son camp, la liste des candidats déclarés à droite et au centre s'allonge sans vraiment inquiéter le président. Les Républicains, il était invité du 20h de TF1 hier soir et il a balayé la question.
Le meilleur gagne, ça a toujours été le cas pour les élections présidentielles.
Comment il va départager le meilleur?
On verra. Je trace ma route. Je sais que mon projet correspond aux attentes des Français. À une large partie des Français. Moi, je ne ferai pas une politique pour des minorités ou pour des clientèles. Je ferai une politique pour la majorité nationale. Cette majorité nationale qui souhaite qu'il y ait moins d'immigrés en France, qui souhaite que la justice soit plus dure, qu'elle sanctionne, qui souhaite que l'école instruise. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de Français, au-delà même de ma famille politique, qui peuvent se retrouver dans ces convictions.
Et on ajoute donc Bruno Retailleau à François Ruffin, Marine Tondelier, Mélenchon pour la gauche, Gérald Darmanin, David Lisnard, Gabriel Attal, Xavier Bertrand. Il y a beaucoup de candidats ou de présumés candidats pour 2027. Est-ce que c'est trop? Est-ce que Bruno Retailleau manquait à cette liste? Vous le soutenez peut-être? 32-16 ce matin, on va parler de cette déclaration de candidature.
Du monde sur la route aujourd'hui avec le début des vacances pour la zone B. Bison futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs sur une grande partie est du pays.
Et puis la fin d'une longue disette hier aux Jeux Olympiques d'hiver 2001.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
À Milan Cortina, la France a décroché sa 8e médaille. Et c'est loin d'être anodin parce que Roman Miradoli s'est emparée de l'argent en Super G. Elle met fin, Léna Marjac, à 24 années de disette pour le ski alpin chez les dames.
Cette médaille d'argent vaut tout l'or du monde. Roman Miradoli n'a pas lâché son sourire. Sur le podium, elle savoure cette première médaille olympique à 31 ans.
J'ai même pas les mots tellement c'est fort. Un podium olympique, c'est juste magique. J'ai l'impression que je réalise pas encore, quoi.
Pourtant, tout cela est bien réel. Partie d'Ossarquin sur les épaules, brouillard sur le haut de la piste, des favorites parties à la faute devant elle. Mais Roman a saisi sa chance à ce qui est juste, à ce qui est propre. Et à l'arrivée, une deuxième place à 4 dixièmes de Federica Brignone, la championne olympique de Super G.
Je suis passée vraiment par toutes les émotions. J'avais envie de rentrer chez moi après le deuxième entraînement descente et le fait de m'être retrouvée un peu dos au mur, ça m'a permis de me remobiliser, de me refocaliser sur ce qui était l'essentiel, juste skier, quoi.
Elle marque aussi l'histoire du ski alpin. Depuis 2002, l'équipe de France féminine attendait une médaille olympique. C'est maintenant chose faite. Une joie partagée par ses coéquipières Laura Gaucher et Camille Cerruti.
Je pense que ça va vraiment faire du bien au ski français féminin, nous donner un nouvel élan.
C'est une belle journée pour l'équipe, c'est une belle journée pour la France et c'est une belle journée pour Roman.
Roman Miradoli ouvre le compteur des Bleus en ski alpin dans ces Jeux et ouvre surtout la voie aux géantistes demain à Bormio.
Et on espère d'autres médailles. Dès aujourd'hui, la porte-drapeau de la délégation française, Chloé Trespeuch, est engagée en snowboard cross dès 10h ce matin. Le sprint masculin que vous pourrez suivre à partir de 14h avec des chances de médailles pour Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault. Enfin ce soir, Adam Sio Imfa sera de retour sur la glace pour le programme libre. En patinage, bien placé pour le bronze après sa 3e place à l'issue du programme court. Tout ça, ce sera à vivre sur RMC, bien évidemment.
Évidemment.
Radio officielle des Jeux de Milano.
Je vous dire que j'ai un peu de route aujourd'hui. Je vais pas quitter RMC de la journée. Là. Il y a des médailles qu'on attend.
Exactement.
Il y a du foot aussi sur RMC ce soir.
Il y a du foot aussi, oui. Rendez-vous, 22e journée, Ligue 1 à 19h. Le PSG se déplace à Rennes à 21h. Monaco reçoit Nantes.
Merci Thibaut Texer, c'était le journal. Vous êtes sur RMC. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h09.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Et Victor Pourchet, ce matin, beaucoup de réactions sur le WhatsApp. Lettre adressée par le ministère de l'Éducation nationale, le ministre. lettre adressée aux parents d'élèves.
Oui, l'école fait beaucoup, mais elle ne peut pas tout. Et il appelle au passage les parents à plus s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants pour éviter les violences. On a Patrick qui nous dit, bah, impliquer, je veux bien, mais le directeur de l'école de mes enfants m'a rembarré une fois quand j'ai essayé de faire une remarque. Il pointe donc, selon lui, la réaction de certains professeurs. Et on a aussi Cynthia qui nous écrit en nous disant que les mots ne suffisent pas. Il faut surtout des moyens et des actes.
Et vous entendrez d'autres parents d'élèves dans le journal d'Élise Dangean à 7h30 pour l'heure. Un demi-million de foyers toujours privés d'électricité. Les crues qui menacent les habitations en Gironde, dans le Lot-et-Garonne. La tempête Nils a fait des dégâts. Le téléphone des assureurs chauffe depuis hier. Bonjour Olivier Moustakakis.
Bonjour Monsieur Bédia.
Soyez le bienvenu, vous êtes directeur général d'Assureland. On a besoin de vous. Pour vous, les collectivités doivent aussi prendre leurs responsabilités. C'est votre parti pris. On va l'écouter dans une minute sur RMC. Et on sera aussi avec Julien qui a été mobilisé pour rétablir le courant. Vous l'entendrez au 32-16. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
7h12 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. La tempête Nils qui a privé jusqu'à 900 000 foyers d'électricité hier. On en est encore à 500 000 ce matin avec des vents jusqu'à qui dépassaient les 160 km/h, des crues majeures dans le sud-ouest. Au-delà de l'urgence, il y a une question qui dérange. Est-ce que notre pays est prêt à affronter des catastrophes qui, peu à peu, deviennent la norme? Bonjour Olivier Moustakakis.
Bonjour Monsieur
Béliard. Vous êtes directeur général d'Assureland. Affronter les catastrophes, les aléas climatiques et s'en relever aussi. C'est pour ça qu'on a appelé un assureur ce matin. Pour vous, les collectivités doivent prendre leurs responsabilités. C'est votre parti pris. D'abord, d'un mot, ces catastrophes, ces aléas, de moins en moins exceptionnels, finalement, la norme est en train de changer.
Alors clairement, on change de paradigme, parce que l'assurance est faite pour couvrir un aléa. Et on peut se poser la question de la notion d'aléa quand, en effet, de manière récurrente et de plus en plus fréquente, chaque année, plusieurs fois par an, on a des inondations aux mêmes endroits, on a des dégâts qui sont causés aux mêmes habitations, etc.
Oui, parce qu'étymologiquement, un aléa, c'est quelque chose qu'on n'attend pas. Là, vous dites
exactement.
Que chaque année, il va falloir qu'on
s'y attende.
Et c'est
de plus en plus prévisible. Voilà. C'est ça aussi le problème.
Bon, ça coûte. Ce sont énormément de frais de remboursement et donc de tarifs assurantiels qui vont continuer d'augmenter.
Alors, les tarifs flambent, clairement. On est sur une tendance à la hausse depuis de nombreuses années, malheureusement. Le vrai sujet, c'est la question qui va se poser et qui se pose aujourd'hui, c'est l'assurabilité dans l'avenir de certains territoires, les territoires les plus exposés aux risques climatiques. On peut se poser la question légitime de savoir s'ils seront toujours assurables ou pas. Alors, on a la chance en France d'avoir un double système d'indemnisation. Vous avez votre contrat d'assurance classique, plus un régime légal, le régime des catastrophes naturelles, qui va pouvoir intervenir dans le cadre, par exemple, des inondations, de la sécheresse, du risque de sécheresse pour ce type d'événement. Le vrai sujet, c'est que les primes augmentent. L'État a encore augmenté la surprime pour abonder le fonds du régime catastrophe naturelle. Il a passé la surprime de 12 à 20% au 1er janvier 2025.
Il faut bien l'abonder, ce fonds, en même temps.
Exactement.
Parce que là, je voyais que ça vous a coûté de 4 à 4,5 milliards d'euros par an aux assureurs. Entre
alors, les assureurs, aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, on était sur un montant à peu près d'un milliard et demi par an, en moyenne. Aujourd'hui, on est plutôt à 6 à 6 milliards et demi chaque année pour les risques climatiques.
Ok, donc très clairement, il faut abonder ce fonds. À la fin, de toute façon, ce sera évidemment l'assuré qui va payer. Vous parliez de l'assurabilité de certains territoires. On a beaucoup parlé de l'Aude hier, parce que la tempête Nils y est passée, du vent, beaucoup de pluie. J'ai souvenir qu'on a beaucoup parlé de l'Aude pour la sécheresse et les incendies. Il y a des territoires comme ça où...
Alors, il y a des zones qui sont très exposées.
En fait, j'allais vous poser la question autrement. On va toujours pouvoir être assuré? Quand j'achète une maison, je pourrais toujours l'assurer?
Alors, la réponse, c'est l'enjeu, justement. Et la réponse aujourd'hui, c'est oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de zone non assurable en France, heureusement, sur le territoire français. Le vrai sujet, c'est que les primes, à un moment donné, ne peuvent pas monter au ciel. D'accord? Donc, il faut mettre en œuvre des mesures de prévention. Et on limite souvent, d'ailleurs, le rôle de l'assurance à l'émission d'un tarif, l'encaissement d'une cotisation et le remboursement d'un sinistre. L'assurance, c'est beaucoup plus que ça, en fait. L'assurance, c'est vraiment un acteur clé, justement, dans l'adaptation et dans la résilience, justement, au changement climatique, c'est-à-dire qu'ils financent énormément de mesures de prévention. D'accord? Il y a des mesures très simples. Des personnes qui sont inondées, il suffit de les équiper d'un bâtard d'eau, ça coûte 70-100 euros, pour bloquer mécaniquement l'entrée de l'eau à l'intérieur des maisons. Il y a énormément de mesures de prévention.
Vous préférez financer ça que la réparation des dégâts derrière?
Tout l'enjeu, c'est ça pour l'assurance, c'est de prévenir avant d'indemniser, et de réduire surtout la facture d'indemnisation.
Vous en appelez aux autorités locales. Vous dites qu'il va falloir un peu plus de responsabilité, notamment de la part des élus locaux. Ça tombe bien, on est à quelques semaines des municipales.
Alors, je pense que c'est tout le monde doit prendre une responsabilité, c'est-à-dire aussi bien le particulier, parce qu'il faut qu'il développe aussi une culture du risque, ce qui essaie de faire les assureurs auprès de leurs assurés, d'accord, pour s'adapter justement et mettre en œuvre des mesures de prévention. Quand il y a une tempête, ben, typiquement, les assureurs alertent leurs clients en disant « Attention, rangez votre mobilier de jardin, parce qu'en cas de tempête, ça peut se projeter contre vos baies vitrées et endommager votre maison. Protégez votre habitation quand il y a un risque d'inondation qui arrive, parce qu'on le sait maintenant, on arrive à le prévoir. D'accord ? Et au niveau des collectivités locales, moi, il me semble encore aberrant qu'en 2026, on signe encore des permis de construire dans des zones inondables.
On signe des permis de construire tout beaucoup, Olivier Moussaka, oui, qui, vous le voyez, vous assurez ces habitations.
Tout à fait. Donc, à un moment donné, il faut que chaque partie se responsabilise et il faut arrêter un peu cette urbanisation un peu aveugle, hein, qui a été, c'est pour ça aussi qu'on a des montants de dégâts de plus en plus coûteux, hein, c'est le fruit aussi de 30 ans d'urbanisation folle où on a construit dans des zones qu'on savait inondables, qu'on savait submersibles et que la mer pouvait atteindre, etc.
Puis alors, je découvre une autre chose, ce que vous dénoncez comme une absurdité, reconstruire à l'identique des habitations sinistrées, là où elles ont été sinistrées, même si elles seront, on le sait, à nouveau inondées.
Alors ça fait partie d'un article, mais c'est le législateur qui doit le modifier, hein, du code des assurances, qui impose à l'assureur, en fait, de reconstruire à l'identique. Donc je vais vous donner un exemple très simple. Vos circuits de prise électrique, d'accord, qui sont toujours en bas de mur,
ouais,
d'accord, on sait qu'à la prochaine inondation, ils vont être encore atteints. Il suffit juste de mettre les prises quand on reconstruit, et quand on reconstruit le schéma électrique, en hauteur, à 20 cm, 50 cm de haut. Ça participe de mesures très simples. Le problème, c'est qu'il faut que le législateur s'empare de ce sujet.
Parce que vous, pardon, quand vous avez un sinistré, vous devez lui remettre ses prises exactement au même endroit.
Alors, les assureurs sont obligés de reconstruire à l'identique. D'accord. C'est le code des assurances qui l'impose. Donc, il faut que le législateur modifie cet article. Il y a énormément de choses à modifier. Vous avez aussi l'État qui a budgétisé le fonds Barnier. Le fonds Barnier, c'est un fonds qui était là pour financer des mesures de prévention, pour financer des expropriations pour les maisons les plus exposées sur certains territoires, sur certaines zones de risque. Il a été budgétisé à partir de 2021. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le budget, c'est l'État qui fixe chaque année jusqu'à quel montant on peut mettre de l'argent sur ce fonds. Alors que ce fonds, automatiquement, il était alimenté par un pourcentage qui était pris déjà sur la prime catastrophe naturelle. Donc chaque année, il grossissait. Quand la prime augmente, son allocation grossissait. Ben là, cette année, il aurait dû être à 450 millions. L'État l'a bloqué à 300 millions.
Oui, responsabilité voilà. De l'État. Alors ça, c'est au niveau national. On va reparler des élus locaux dans un instant. Mais d'abord, un témoignage qui vient du Gers, je crois, Victor, sur le WhatsApp RMC.
Exactement, c'est Hicham qui habite dans le Gers, dans un tout petit village. Il est à Touget et il nous décrit ce qu'il a vécu hier. Des arbres qui ont coupé les câbles électriques, plus d'électricité jusqu'à tard dans la soirée, pas d'école pour les petits. Il nous dit, les champs dans le Gers se sont transformés en mer Méditerranée, donc d'énormes dégâts dans un tout petit village du Gers.
Non, il y a quand même une réalité, hein. Il y a aussi une réalité économique à ces intempéries. Je pense à l'activité économique des entreprises qui ne peuvent plus bosser.
Les agriculteurs, les récoltes qui sont dévastées, les entreprises aussi qui sont impactées.
Oui, on a des champs qui sont transformés en pédiluve en ce moment-là. Oui. Ça aussi, ça vient se rajouter au coût
des assurances. Ça fait partie des missions de l'assurance. Et ils testent énormément sur la végétalisation des sols, notamment le risque sécheresse, parce qu'on parle du risque inondation. Le risque inondation, paradoxalement, il ne coûte pas très cher. Comparativement au risque sécheresse. Sécheresse, les fissures dans votre maison, quand il y a un retrait gonflement des sols argileux, c'est 1 milliard à peu près par an. Alors que l'inondation, c'est 300 millions. D'accord ?
Très clairement.
Voilà, donc là, il y a des tentatives qui sont mises en œuvre, des expériences qui sont en cours, d'accord ? Où on s'est aperçu qu'en fait, il fallait végétaliser les sols de manière différente pour justement limiter ce risque. Donc il y a énormément de mesures qui sont mises en œuvre. Donc on ne pourra pas éviter une inondation. En revanche, on peut limiter le coût. C'est tout l'enjeu.
Merci beaucoup Olivier Moustakakis. Et c'est cette réalité du réchauffement climatique dont on parlait au futur, là c'est le présent, là c'est très concret et on le chiffre avec vous.
C'est une réalité, oui.
On le chiffre avec vous en direct ce matin, directeur général d'Assureland. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions et bon courage à ceux qui sont traversés par la tempête Niels, qui l'ont été. C'est terminé la tempête, Géraldine, je parle sous votre contrôle.
Effectivement, on a toujours les conséquences avec les crues qui continuent encore aujourd'hui et ça, les niveaux vont rester très hauts encore plusieurs jours.
Et on attend vos témoignages ce matin, que vous soyez sinistré ou simplement en train d'observer ce qui se passe autour de vous ce matin au 32-16. Merci beaucoup, il est 7h20 sur RMC. Petite Madeleine pour beaucoup d'entre nous. Dans un instant, on va remonter le temps avec vous, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Ça va, Arthur ?
Ça va et vous, Mathieu ?
Et vous revenez sur cette info qu'on avait légèrement développée hier, la mort de James Van Der Beek, le célèbre acteur de la série Dawson. Il laisse derrière lui une famille totalement ruinée.
Eh oui, riche, célèbre et pourtant sans un sou à leur mort. Je vous raconte ce matin ces stars qui ont tout perdu au point parfois de finir dans une fosse commune.
Et puis Arnaud Demange qui pirate le face-à-face avec Marie Chantrey ce matin. Son invité, c'est Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes exactement.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC, RMC Story. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Mathieu.
James Van Der Beek, le célèbre acteur de la série Dawson, est mort à l'âge de 48 ans. Avant-hier, il laisse une femme, 6 enfants, une famille totalement ruinée.
Et oui, l'acteur combattait un cancer depuis 3 ans, hein, et aux États-Unis, évidemment, se soignait. C'est hors de prix, tout son argent y est passé. Résultat, sa veuve, Kimberly, a lancé une cagnotte en ligne pour sauver la maison familiale et payer la scolarité des enfants. Un appel aux dons qui a déjà permis de recueillir près de 1 million de dollars quand même.
C'est tragique, Arthur, ces stars qui finissent dans la misère.
Mais oui, la carrière des artistes, c'est parfois très cruel. Hein. On peut avoir le talent, la reconnaissance, tout ça très jeune et pourtant terminer de façon pathétique. Prenez l'exemple de Mozart. Hein. Mozart, le compositeur le plus célèbre du monde. À l'âge de 6 ans, c'était une énorme star connue dans toutes les capitales. Eh bien, ce succès précoce ne l'empêchera pas d'accumuler des dettes toute sa vie. À la fin, il était complètement ruiné. Il devait même donner des cours pour survivre et il empruntait de l'argent à ses élèves. Sa fin est évidemment misérable. Son corps est jeté dans une fosse commune.
Ah, plus récemment, il y a eu des déchéances comparables.
Beaucoup. Et parfois, des stars montent vraiment très haut avant de redescendre très bas. C'est le cas de l'actrice américaine Judy Garland dans les années 30, à 17 ans. Elle devient célèbre grâce à son rôle dans le film Le Magicien d'Oz. Ça lui vaudra d'ailleurs un Oscar très jeune. Sa carrière est lancée, mais ça va pas durer. Elle va sombrer dans la drogue, enchaîner les mauvaises performances. À la fin de sa vie, pour survivre, Judy Garland chante même dans des bars new-yorkais pour 100 dollars la nuit, tellement elle avait besoin d'argent. Après plusieurs tentatives de suicide, elle meurt finalement d'une overdose de barbiturique.
Je ne connaissais pas la fin de Judy Garland, j'avais que le Magicien d'Oz, le coup. Parfois, les artistes sont plus riches morts que vivants.
Et oui, ça s'explique, oui. Mathieu, en fait, c'est assez logique. Les artistes gagnent de l'argent, bon, ça on le sait, mais ils en dépensent aussi beaucoup. Oui. Donc quand ils meurent, la machine s'arrête et il faut continuer à payer le train de vie. Prenez par exemple Elvis Presley. Aujourd'hui, sa musique rapporte évidemment énormément, mais à sa mort, en 1977, il avait très peu d'argent de côté, en tout cas, pas assez pour entretenir Graceland. Graceland, c'est sa gigantesque maison à Memphis, et donc sa veuve, Priscilla Presley, a une idée. Elle ouvre la maison au public en faisant payer les entrées, une méthode radicale qui va fonctionner. Aujourd'hui, Graceland accueille toujours 600 000 visiteurs par an, ce qui permet de garder la maison.
Bien sûr. Marvin Gaye a lui aussi connu une fin tragique.
Oh là là, Marvin Gaye, la descente aux enfers du roi de la soul. Mathieu, dans les années 60, c'est une star de la Motown, la légendaire maison de disques. En 1967, toute l'Amérique chante son tube « Ain't No Mountain High Enough », une joie de courte durée. Puisqu'à la fin des années 70, il sombre dans toutes les addictions, il se ruine et part carrément pour Hawaï où il vit dans une caravane. Et alors qu'on le croyait fini, il remonte la pente avec un nouveau tube en 1982. Ce tube, c'est Sexual Healing, mais il rechute. Et alors qu'il vit réfugié chez ses parents à Los Angeles, il est assassiné par son propre père en 1984.
Allez, on va terminer parce qu'il y a quand même beaucoup de gens morts et des fins tragiques. On termine sur une note un peu sexy ce matin, veille de Saint-Valentin.
Bah oui.
Sexual Healing, bien joué.
Sur vous pour
Merci Arthur Chevalier. Marvin Gaye, vendredi matin, c'est toujours une bonne idée en tout cas. Vous voulez réécouter la chronique d'Arthur Chevalier avec des vrais morceaux de musique dedans, direction le podcast et l'application sur le site rmc.fr aussi. Il est 7h25.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud Demange.
Pourquoi on regarde pas Sexual Healing pour mon arrivée?
Vous envoyez des trompettes. Vous piratez le face-à-face ce matin, oui. Marie Chantrey reçoit Jean-Philippe Tanguy.
Oui, car le RN est sous pression. Marine Le Pen sera fixée sur son sort le 7 juillet 2026. Son avocat a dit au juge, si l'affaire n'est pas politique, les conséquences le sont. Attention aux conséquences, les juges. C'est vraiment le gars qui a trompé sa femme qui lui dit, bon ok, j'ai couché avec Sabine. Mais on va vraiment divorcer pour ça? Pense aux enfants. Attention aux conséquences. Ne sois pas égoïste, tu peux les briser. T'as envie que tes enfants finissent sous un pont à faire la manche? T'es quel genre de femme? Tout ça parce que j'ai couché avec Martine? T'avais dit Sabine? Oui, aussi, mais ne change pas de sujet. Voilà, ça c'est tout toi. Je te parle d'avenir d'enfants innocents et toi tu patauges dans des détails. Sabine, Martine, Julie, Eric. Tu crois que j'ai retenu les prénoms? Tu crois que j'ai retenu les prénoms de toute ta famille? Ben non. Parce que moi je pensais à toi. Tu me crois pas? Tu crois que j'ai pas dit à Martine, faut pas que ta fille soit au courant? Tu veux qu'on regarde la vidéo? Donc attention aux conséquences. Jean-Philippe Tanguy n'est pas dans les fichiers Epstein. Alors je me suis dit peut-être qu'il a un surnom, donc j'ai tapé Jean-Phil. Et alors là, Jean-Phil, des millions d'occurrences. Sinon, Bruno Retailleau se présente à la présidentielle, donc il va répondre aussi à ça. C'est une étape obligée, la présidentielle, dans la vie d'un homme de droite. Et oui, parce que s'il fait pas campagne, comment il va pouvoir être accusé de financement illégal de campagne après? C'est comme ça qu'on devient un LR respectable, des fondamentaux. Je suis désolé. Mais oui, on n'y pense pas. Vous savez, Mathieu, cette chronique, ça n'est pas que de l'humour. Il y a plusieurs niveaux de lecture, en fait.
On apprend en s'amusant.
Mais oui, c'est Alcabache contre Coluche, quoi. De rien, la France.
Puis, il est fou.
Marion Maréchal sort son premier livre, Si tu te sens Le Pen, aux éditions Fayard. C'est curieux comme titre, Si tu te sens Le Pen, ça fait chant de supporter de foot, quoi. Si t'es fier d'être un Le Pen, lève le bras droit. Si t'es fier d'être... Après les livres de De Villiers, Bardella, Zemmour, c'est Marion Maréchal. Il y a quand même une ligne éditoriale chez Fayard, hein. Je veux pas accuser de quoi que ce soit, mais je veux dire que si François Ruffin sortait sa bio chez eux, on serait surpris. Ou alors la pub serait adaptée. Les éditions Fayard présentent un livre de merde. L'autobiographie de François Ruffin. Un torche-cul aussi nul que son auteur. Découvrez le parcours minable d'un mangeur d'enfants gauchiste et homosexuel qui a consacré toute sa vie à détruire le pays que vous aimez tant. Tout de suite, le mot de François Ruffin. Mais c'est quoi cette pub? J'ai jamais écrit que je mangeais des enfants! Silence, pourriture communiste. Alors n'achetez pas le livre de François Ruffin, achetez plutôt celui de Marion Maréchal aux éditions Fayard. Toute la diversité de la droite extrême à l'extrême droite. Allez, rendez-vous avec Jean-Philippe Tanguy à 8h30 avec Marie Chantret qui fera l'interview donc en chanson.
Voilà. Merci Arnaud de Manche.
À 8h15.
Qu'on retrouve tout à l'heure en podcast. Pardon, à 8h20 Arnaud de Manche. Et quand on veut en podcast, bien sûr, il est 7h28. 7h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est la conséquence directe de l'incendie du bar de Cran Montana, le contrôle de la sécurité des établissements français. Et vous allez l'entendre, le bilan est très mauvais. 45 d'entre eux ont même dû fermer à la demande des autorités. 450 000 foyers toujours privés d'électricité et des stations de ski qui vont rester en partie fermées aujourd'hui, conséquence de la tempête Niels. Et puis quand les parents sont traités comme des enfants, vous l'entendrez dans ce journal, la lettre du ministre de l'Éducation aux familles fait grincer des dents.
Les fêtards sont-ils en sécurité dans leurs bars et boîtes de nuit préférées?
C'est la question à laquelle le ministère de l'Intérieur a voulu répondre après le drame de Cran Montana en Suisse où 41 personnes sont mortes dans l'incendie d'un bar la nuit du Nouvel An. Depuis, plus de 440 établissements français ont été contrôlés et le résultat n'est pas glorieux. Pierre Bazin, près de la moitié d'entre eux présentent des failles qui nécessitent une remise aux normes.
Oui, au total, ce sont 195 établissements qui ne respectaient pas certaines normes de sécurité. Des matériaux inflammables, des branchements électriques dangereux ou encore des voies d'évacuation trop resserrées. Les autorités ont même prononcé des fermetures administratives d'établissements, 45 au total. Dans le Var, par exemple, c'est un restaurant qui a dû baisser le rideau le temps de former le personnel au risque incendie notamment. Dans le Val d'Oise, cette fois, c'est tout le système d'alarme incendie qui a été signalé comme non conforme. Là encore, la préfecture a directement fermé l'établissement par arrêté. Les bars avec des sous-sols, les boîtes de nuit mais aussi les salles recevant du public sont particulièrement dans le collimateur des autorités qui comptent poursuivre ces contrôles dans les prochaines semaines.
La sécurité, c'est le gros enjeu ce matin dans les stations de ski des Alpes à cause de la tempête Niels qui se décale vers l'est ce matin après avoir causé de gros dégâts, notamment dans le sud-ouest. 450 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin. À Tignes, en Savoie, habitants et vacanciers ont dû rester confinés pour la nuit en raison des fortes chutes de neige. Et à La Plagne, le domaine est resté fermé toute la journée hier. RMC a joint le directeur des pistes ce matin, Luc Nicolino, qui confirme qu'en pleine période des vacances scolaires, et bien une partie du domaine restera toujours inaccessible aujourd'hui.
On prévoit de réouvrir le domaine progressivement, toutes les parties basses dans un premier temps, et les parties intermédiaires et les parties vraiment hautes du domaine resteront fermées aujourd'hui car on reste sur un risque très élevé avec un manteau neigeux très très fragile. C'est quelque chose qui reste assez rare, mais on ne peut pas se permettre envoyer des clients sur des pistes où il pourrait y avoir un danger. Aujourd'hui, ça va vers le mieux, mais le message de la journée, c'est rester uniquement sur les pistes ouvertes et sécurisées. C'est pas le meilleur moment pour nous d'un point de vue économique, hein, bien sûr, puisque là on a du monde dans la station. Mais voilà, quoi, la sécurité passe au-dessus de tout. On peut pas faire autrement.
Et notez que la Gironde et le Lot et Garonne restent en alerte rouge au cru au moins jusqu'à demain. Il est 7h34 et c'est un courrier qui en a étonné plus d'un, qui a même provoqué la colère de certains. La lettre adressée hier par le ministre de l'Éducation à tous les parents d'enfants scolarisés pour les appeler à sensibiliser leur progéniture à l'importance de l'école. L'école fait beaucoup, mais elle ne peut pas tout, écrit Édouard Geffray, qui appelle à un sursaut collectif face au harcèlement scolaire et aux violences envers les profs. Un ton que tous les parents n'ont pas apprécié, Cassandre Brou.
À la lecture des mots du ministre de l'Éducation aux parents d'élèves,
besoin de votre vigilance.
Clémence, une maman, voit rouge.
Je trouve ça sacrément infantilisant. Enfin, il y a certaines phrases qui me font bondir.
Si elle a régulièrement des discussions autour du harcèlement avec son fils de 9 ans, ce n'est pas le cas de Joao, avec son cadet de 17 ans.
Ses relations avec ses amis, il n'en parle pas. Maintenant, ils sont tous rivés sur leur téléphone.
Alors, cette lettre est la bienvenue.
Je me rends compte qu'en fait, j'ai pas assez de discussions avec mon fils.
Le ministre de l'Éducation aborde aussi la violence des élèves envers les professeurs. Tony, lui, n'a jamais vraiment pensé à en parler avec son fils de 11 ans.
Des professeurs qui sont agressés, ils ne viennent pas pour ça. Donc c'est à nous, parents aussi, on a un rôle à jouer, clairement.
Une piqûre de rappel pour les parents, se réjouit Maud Duveuf, secrétaire du syndicat SEUNSA de l'Académie de Limoges.
Pour qu'ils fassent attention à ce que leur enfant amène dans le cartable et pour qu'ils vérifient l'état émotionnel, l'état psychologique de leur enfant.
Pour la syndicaliste, ce n'est qu'une première étape qui doit s'accompagner d'un recrutement d'équipes pédagogiques encadrantes, comme les infirmières et les psychologues scolaires.
Vous avez reçu peut-être ce courrier par mail du ministre de l'Éducation nationale, forwardé par la direction de l'école de vos enfants. Moi, je l'ai reçu. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez lu ? C'est un peu long, c'est écrit tout petit. Est-ce que vous l'avez lu attentivement ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est le rôle du ministre ? Est-ce que vous êtes sensible à cet appel ou agacé ? 3216 et le WhatsApp RMC, vous serez en direct avec nous.
Elle s'apprête à réaliser son rêve de gosse. L'astronaute française Sophie Adno va s'envoler aujourd'hui vers la Station Spatiale Internationale pour sa toute première mission qui marquera aussi le retour d'une Française dans l'espace après 25 ans.
Et puis la France compte 8 médailles ce matin.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
8 médailles grâce à celle en argent décrochée hier par Roman Miradoli en ski alpin dans l'épreuve de vitesse du Super-G. La France pourrait à nouveau briller aujourd'hui en snowboard cross avec les femmes dont la porte-drapeau Chloé Trespeuge, double médaillée olympique en 2014 et 2022, qui est donc de retour avec un tout nouveau statut, Morgane Maury.
Dans l'équipe de France, ses coéquipiers la surnomment la Daronne pour son palmarès XXL, mais aussi parce qu'elle est l'une des 18 mamans ou papas de cette équipe de France au JO d'hiver. Elle avait stoppé sa carrière en 2024 pour donner naissance à Marlo.
La particularité du snowboard cross, c'est que j'ai dû arrêter totalement dès le premier mois. Donc ça fait beaucoup de temps sans mon sport. Donc beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, mais très contente de l'avoir accompli.
La Savoyarde consulte la judoka Clarissa Gbelinou, la biathlète Justine Brézaboucher et d'autres championnes mamans.
J'ai échangé avec elle pour qu'elle me donne quelques tips sur combien d'heures concrètement on peut s'entraîner quand on est enceinte, quelle intensité. Tout ça, il y a très peu de recherches écrites et de publications.
Cet hiver, elle monte sur 2 podiums de Coupe du Monde. Objectif, devenir la première maman médaillée en snowboard cross au JO.
Je suis plus en reconstruction, j'ai retrouvé mes sensations. Je peux de nouveau rêver médaille et que je me sens armée pour.
Après la routine parfois ennuyeuse des derniers jours, Trespeuch a enfin pu voir son fils et son compagnon hier soir. Aujourd'hui, il y aura 40 Trespeuch au bas de la piste pour la soutenir.
Et aujourd'hui, c'est aussi le retour du biathlon avec 4 Français engagés pour l'épreuve du 10 km individuel homme.
Et on va vivre ça sur RMC. En plus, pardonnez-moi, c'est un peu perso, mais là, c'est vendredi en plus. Là, on n'a pas besoin de dormir pour préparer la matinale du lendemain.
Et moi, oui, on peut se régaler.
J'ai de la route aujourd'hui. Je ne vais pas décrocher d'RMC, les amis. Puis je viens d'apprendre que Estelle Midi est raccourcie aujourd'hui. Ça s'arrête à 14h pour une spéciale intégrale JO avec Arnaud Valadon. Dès 14h, on va être très bien sur RMC et on espère une pluie de médailles. Élise, le quintet, n'oublions pas le quintet, 20h15, c'est vendredi, c'est en nocturne, l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 3, Combat Fighter. L'outsider, c'est l'As, Chit Chat.
Chit Chat.
chit-chat.
Ouais, c'est comme ça qu'on prononce pas. Du ciné des années 90. Merci Élise Dangean, c'était le journal de 7h30. Victor Pourchet est là et il surveille vos messages sur le WhatsApp RMC, le 06 12 424 424. Quelques réactions à l'annonce de candidature de Bruno Retailleau.
Exactement, ça vous fait réagir sur le WhatsApp. On a notamment Mathieu qui nous dit, bah, quelle que soit la personnalité qui se présente au présidentiel, de toute façon, notre pays est bloqué. Donc, ça n'a pas beaucoup, il n'a pas beaucoup d'espoir pour la suite. On a aussi Michel qui nous dit, Retailleau, candidat au présidentiel, c'est la preuve que ces gens sont hors sol vu leur bilan. Pas beaucoup d'enthousiasme pour la candidature du président des Républicains à la prochaine élection présidentielle.
Vous disiez, de toute façon, le pays est bloqué, c'est ça.
Peu importe la personnalité.
Eh ben, je poserai la question à nos deux débatteurs, Cécile Duflot et Charles Consigny, cette candidature de Bruno Retailleau, déjà en soi, hein, ce que ça dit de la droite française, et puis aussi l'avalanche de candidatures ou de noms de personnes pressenties pour 2027. On va avoir du choix, j'ai l'impression. D'ici là, vous réagissez, vous continuez si vous le souhaitez. Au 32-16, on en parle dans 10 minutes.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h39 et une Française dans l'espace, la deuxième de l'histoire, la première depuis un quart de siècle. Sophie Adnot doit décoller aujourd'hui pour la Station Spatiale Internationale. Bonjour Alain Siroux.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et tous.
Vous êtes directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Que va faire Sophie Adnot pendant 8 à 9 mois là-haut? À quoi ça sert? Vous nous répondez dans une minute sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h43 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous.
Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0.
Sophie Adnot doit s'envoler aujourd'hui pour la Station Spatiale Internationale. Bonjour Alain Siroux.
Bonjour Mathieu.
Quel plaisir de vous retrouver. Quand on vous parle, Alain Siroux, c'est qu'on va mettre un peu la tête dans les étoiles. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Et Sophie Adnot est donc la première Française depuis Claudie Aignoret, la deuxième Française de l'histoire à visiter l'espace, si j'ose dire. C'est clairement un événement.
Bah, c'est un événement pour nous parce que d'abord c'est un rayon de soleil, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'actualité, un peu triste ou net. Il y a une jeune femme avec un beau sourire qui a envie de partager une expérience extraordinaire et qui raconte qu'en fait c'était pas sa destination première, c'est son plan B comme elle dit. C'est-à-dire d'abord elle voulait vivre sa vie, puis si ensuite elle allait dans l'espace, alors là c'était vraiment le kiff quoi.
Ouais, bah là, elle va pouvoir kiffer, hein, comme on dit, puisqu'elle va, elle va découvrir la Station Spatiale Internationale. Alors, j'aime bien sourire un peu sur ISS. Ils vont s'envoler à 400 km de haut. Je dis que depuis le studio où on est, c'est moins loin que Limoges. À quoi ça sert d'envoyer des gens là-haut, Alain Siroux?
À quoi ça sert? D'abord, tous les astronautes qu'on rencontre et quand on discute avec eux, nous on a toujours l'impression qu'ils partent dans les étoiles. Vous savez, on dit ah ils vont regarder le ciel, l'univers. Et en fait, quand ils reviennent, ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent de la Terre. Ils sont à 400 km et ils voient une boule bleue toute ronde avec aucune frontière, des traces d'occupation humaine, un peu de pollution parfois. Et ils reviennent en disant mais il faut que tout le monde monte là-haut. Alors on est d'accord bien sûr, mais c'est une prise de conscience qui est une prise de conscience de ce que l'humanité vit sur un endroit extraordinaire et qu'il va falloir préserver.
Mais à partir du à quoi ça sert, il y a le message, bien sûr, il y a toute cette poésie Alain Siroux, et c'est pas rien, c'est important, y compris de faire rêver les gamins, je trouve que ça joue en ce moment. Oui. Mais Alain Siroux, qu'est-ce qu'elle va faire là-haut concrètement, Sophie Adnot?
Alors, elle va faire ce que font les centaines d'astronautes qui l'ont précédée dans la station, c'est-à-dire des tas d'expériences scientifiques. Il y en a à peu près 200 programmés. En gros, vous avez trois thématiques.
On n'a pas déjà tout fait, Alain. J'ai Laurent qui nous a écrit sur le WhatsApp RMC. Victor, vous le lisiez tout à... Qu'est-ce qu'il disait, Laurent?
Ben, il nous dit aller dans l'espace. Alors, je le cite, hein, ça ne fait plaisir qu'aux astronautes. OK, faire des expériences, mais tout a déjà été fait.
C'est tout ça a été fait, Alain?
Non. En fait, ce qu'on mesure chaque fois de meilleure façon, c'est notre degré d'ignorance. C'est-à-dire qu'on apprend, mais on essaie de comprendre comment marche finalement la vie sans gravité, par exemple. Mais vous savez, les astronautes, on focalise sur eux comme s'ils étaient effectivement l'intégralité de l'exploration spatiale. Ce sont des chaînes, ce sont des maillons d'une chaîne. Et en fait, elle va faire trois choses. Elle va faire des expériences scientifiques comme tous ceux qui l'ont précédé, et avec des spécificités particulières. Elle va, je dirais, travailler comme tous les autres à la préparation de l'avenir de l'exploration spatiale habitée et la Lune, peut-être de l'exploration ensuite.
Ah oui, oui, parce qu'on va faire le tour de la Lune dans pas très très longtemps, justement, ouais, avec l'objectif d'y retourner en 2028.
Oui, et puis ensuite, c'est beaucoup de casquettes. Hein. Elle va essayer, comme tous les astronautes français et européens, d'impliquer la jeunesse dans l'aventure spatiale, c'est-à-dire de donner l'idée que finalement s'intéresser à l'exploration, ça peut aussi ouvrir d'autres pistes. Donc c'est beaucoup de casquettes, mais n'oubliez pas qu'elle va aussi faire plombier, électricien, réparateur, etc. Il faut entretenir la station d'abord.
Avec un profil de surdoué parmi les surdoués, formé en 2 ans et 10 mois, c'est plus court que les autres que ses prédécesseurs, pour un séjour plus long que d'habitude, presque 8 mois. Sophie Adnaud, qui n'est clairement pas là par hasard, on va la suivre. 11h15, tout à l'heure, décollage à bord de Falcon 9 de SpaceX, direction la Station Spatiale Internationale. Merci Alain Sirou pour ces quelques minutes de rêve ce matin sur RMC. Il est 7h47. Et ce matin, le débat voix de droite, voix de gauche avec Cécile Duflot et Charles Consigny. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bruno Retailleau annonce sa candidature. Est-il de trop? Le patron des Républicains a annoncé sa candidature à la présidentielle. Mais on a une très longue liste de ceux qui se verraient bien à l'Élysée, à droite comme à gauche d'ailleurs. On en parle, on en débat dans moins d'une minute sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Victor, vous nous parlez ce matin du week-end spécial sur RMC Gold.
Et oui, week-end spécial Benabar qui vient de sortir un nouvel album plus de 20 ans après son tube, Le Dîner. Ça, il y aura dimanche soir 22h dans la colloque de RMC Gold, donc Benabar qui reviendra sur la face cachée de son succès, notamment des menaces de mort, vous l'entendrez. Et puis dès ce soir, 22h, il sera dans la playlist de Ta Vie animée par Max. On y découvrira ses influences et son nouveau titre, Les Coups.
Les coups de foudre, les coups de tête, les coups de blues, les coups de maître.
Et ce sera évidemment l'occasion dans la colloque d'une interview dernier coup de...
Sale coup, bah, j'ai balancé l'essentiel de mes potes aux impôts.
C'est bon ça.
Ouais. Mais bon, ça, c'est pas le dernier, hein, ça fait partie de la...
Est-ce que c'est vraiment un sale coup?
Oui, voilà, c'est ça.
Oh, ça reste quand même un plutôt sale coup. Week-end spécial Benabar sur RMC Gold. Ça se passe sur l'appli RMC et sur rmc.fr.
RMC, Apolline Matin.
Le débat.
Voix de droite, voix de gauche, Cécile Duflot, Charles Consigny sont là tous les deux, tous les vendredis. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nathalie Arthaud, Delphine Bateau, Jérôme Guedj, François Ruffin, Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, David Lisnard, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Marine Le Pen ou Bardella, Jordan Bardella, François Asselineau, même Nicolas Dupont-Aignan. J'arrête là, la liste est longue, peut-être même pas exhaustive, figurez-vous, des candidats déclarés ou pressentis pour 2027. Une foire d'empoigne à laquelle il faut donc ajouter Bruno Retailleau, le patron des LR. Il s'est lancé hier.
J'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle.
Cécile, on est à 14 mois de l'élection présidentielle et il y a encore un scrutin avant, n'oublions pas les municipales. Il y a trop de monde sur la ligne de départ?
Je voudrais dire qu'il y a la disparition d'un mot. Il y a 10 ans environ, on parlait de présidentiables, c'est-à-dire de gens dont on estimait qu'ils avaient les qualités qui leur permettraient de réunir leur camp, d'incarner le pays. Maintenant, il n'y a plus que des candidats et effectivement une multiplicité. Alors, il y a plein de raisons à ça. Mais une, je pense, qui est que pour exister médiatiquement, il faut quasiment être candidat à la présidentielle. Et je pense que c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on n'a pas besoin d'une seule personne. On a même vu avec les deux quinquennats Macron les conséquences et on a besoin d'un collectif. Et plus on multiplie les individualités, moins on crée de collectif.
Plus on multiplie les présidentiables, Charles Consigny.
Cécile et moi, nous nous sommes pas encore déclarés. Donc ça fait quand même deux en moins pour l'instant sur la ligne de départ. C'est naturellement une affaire de quelques semaines.
Un petit calme. Je
pense que effectivement, on assiste à ce phénomène qui, à mon sens, vient de Macron. C'est parce que Macron avait surpris tout le monde en 2017 en proposant une candidature inattendue que tout le monde maintenant se sent pousser des ailes. Je pense que certains, en réalité, sont quand même un peu ridicules à être candidats. Je pense que, par exemple, Jérôme Guedj perd beaucoup de crédibilité en étant candidat lui-même. À mon sens, il aurait été plus crédible en annonçant qu'il soutenait tel ou tel des putatifs crédibles à gauche. c'est-à-dire à mes yeux Glucksmann et Hollande, plutôt que de déposer sa propre candidature. Je trouve que c'est un peu différent pour Bruno Retailleau parce que il a un mérite quand même, enfin un mérite. Il a une singularité, disons, c'est que il est porteur d'une certaine radicalité politique, une radicalité politique à droite, c'est-à-dire que sur la sécurité, il est très radical, sur l'immigration, il est très radical. Je pense qu'il va l'être aussi sur l'économie, la réforme de l'État, ce type de sujet. Et malgré tout, ça fait que il est un tout petit peu différent des autres dans ce peloton de départ. Donc moi, je trouve pas sa candidature ridicule. Je pense que ça manque pour l'instant peut-être un tout petit peu d'entrain et de joie de vivre, mais ça peut venir.
C'est dit délicatement. Hein. Je crois qu'il est un tout petit peu pas très différent non plus d'une candidature Bardella aussi, avec sa radicalité par rapport à ce qu'était la droite traditionnelle. Il s'est beaucoup rapproché du Rassemblement National.
Pas sur l'économie.
C'est pour ça que le sujet, ça reste à voir, hein, parce que la position de l'extrême droite est devenue très floue pour essayer de plaire au plus grand des patrons. Mais ça, c'est un autre sujet. La question, c'est de savoir justement quel collectif. Parce qu'on voit bien, je suis complètement d'accord avec Charles sur le fait que Macron ayant été candidat à la présidentielle et étant devenu président, il faut se souvenir qu'à l'époque où il lance sa candidature, un certain nombre de gens ricanent en disant que c'est pas possible, etc. C'est Fillon hein, qui est attendu comme étant le futur président de la République. Il faut se rappeler d'où on vient, parce que, y compris quand on vit les événements, on a l'impression que rien n'est jamais arrivé avant. Dès qu'on se recule un peu, on voit les choses différemment. Et donc, effectivement, maintenant, quelqu'un qui est élu conseiller départemental, il pense que peut-être il a un destin. Ce qui aboutit aussi à des positionnements tactiques qui vise à favoriser leur propre personnalité, identité, et donc à expliquer qu'il y a des subdivisions de subdivisions de lignes politiques, ce qui va complètement à l'encontre, je le disais, de la création d'un collectif, d'une forme, d'une majorité. D'ailleurs, c'est peut-être pas anecdotique qu'on n'ait pas de majorité et qu'on ait autant de candidats à la présidentielle, mais je trouve que c'est problématique parce que l'idée qu'il n'y ait pas tant que ça de candidats à la présidentielle poussait à ce que des individualités et aussi des ambitions individuelles s'écrasent sous une ambition collective. Et je pense qu'on est en train de perdre cette logique d'ambition collective au détriment de petites aventures individuelles. Ça n'a pas été à ce point-là, on pourrait se dire ah « ben, ça a toujours été comme ça ». Pas du tout, ça n'a pas toujours été comme ça.
Mais alors précisément, ce projet, cette idée de faire un collectif derrière cette radicalité de Bruno Retailleau à droite, qui est un terrain que vous connaissez mieux, Charles Consigny, ça peut séduire, il peut rassembler derrière ça ?
Je pense que c'est possible. Après, ça dépend de ce qu'on appelle la droite. C'est-à-dire que il y a quand même Édouard Philippe qui se positionne au centre droit. C'est d'ailleurs là aussi quelque chose que moi je trouve intéressant. Il fait pas semblant d'être de droite et de gauche. Il ne prône pas le dépassement. Il s'affiche tranquillement comme quelqu'un de droite, un peu centriste, droite modérée. Au moins, il ne prend pas les électeurs en traître. Donc il y a Retailleau là, et puis sur la droite. S'il y a Philippe Lay sur la droite de Retailleau, il y a éventuellement Sarah Knafo, mais je pense qu'elle, à mon sens, elle restera groupusculaire comme Zemmour. Et il y a Bardella, mais qui, sur les questions économiques et sociales, présente un programme, à mes yeux, d'inspiration socialiste. Et ensuite, n'a pas l'âge requis, malgré tout, pour le job. Et ça, je pense que ça peut faire naître certaines espérances chez la droite traditionnelle, c'est que si Bardella avait 40 ans, ce serait une autre affaire, comme il en a 30, et qu'il s'agit quand même de désigner le personnage le plus important du pays pour les 5 ans qui viennent, je pense que ça peut caler un peu au moment où il faudra vraiment décider. Donc, il y a ce que les commentateurs appellent un trou de souris, pour moi, il existe. Voilà.
Éventuellement pour un Retailleau ou un autre d'ailleurs.
Mais je pense que le trou de souris existe.
C'est marrant parce qu'on dit la droite et Charles a bien décrit les droites. Du coup, ça nous dit quelque chose de la droite française, de la candidature de Bruno Retailleau ?
Bah oui, ça dit quelque chose de la fracturation qu'a produit dans la gauche traditionnelle et dans la droite traditionnelle l'élection d'Emmanuel Macron. Ça a accéléré d'ailleurs hein, des débats internes qui reposaient sur d'autres choses. Qu'il faut toujours se dire que les débats tactiques qui apparaissent souvent, il y a des plaques tectoniques profondes qui bougent. Je pense qu'à gauche, c'est le rapport à l'écologie qui a structuré la modification d'une partie du débat. Et à droite, c'est le rapport à l'extrême droite. C'est évident et donc c'est quand même très problématique. Ce qui est intéressant quand même, c'est que vous parlez d'Edouard Philippe. Edouard Philippe, il était quasiment inconnu. C'était un maire du Havre, assez estimé. Mais il est devenu Premier ministre et tout d'un coup, pouf, il s'est retrouvé obligé d'être candidat à la présidence, comme Gabriel Attal, comme tous
comme les le cornu personnalités. Comme,
voilà. Et ça, honnêtement, je pense que ça nous fait globalement du mal. Parce qu'il faut quand même se dire que président de la République, c'est un vrai travail qui nécessite quand même d'être formé. Vous ne confieriez pas votre voiture à un garagiste qui n'a jamais réparé de voiture. Vous ne demanderiez pas à quelqu'un de faire du pain s'il n'a jamais fait du pain. Il y a une question d'expérience, de capacité à comprendre le pays. Enfin, vraiment. Et je dis ça de manière apaisée. Et aussi, on peut faire d'autres choses quand on est engagé en politique. Alors, l'autre inconvénient de Macron, c'est qu'il a tué le job des ministres. Et ce qui fait que les gens se disent, hors président de la République, il n'y a plus rien. Je pense qu'il faut absolument faire marche arrière et remettre un peu de normalité dans la gestion de la République.
Merci à tous les deux, Cécile Duflo, Charles Consigny. C'était le débat. Il continue, si vous le souhaitez, au 32-16, notamment avec vos appels et vos messages. Vous restez bien avec nous dans un instant, la météo et le journal. On va revenir sur cette annonce. On a appris que la tempête Nils a fait une deuxième victime dans le Tarn-et-Garonne. On y revient dans le journal de Quentin Vinet. Tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.